Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la revue de presse chrétienne de Radio Ranciel pour laquelle me rejoignent en studio Liliane Dazin. Bonjour Liliane.
Bonjour Émilie.
Et Simon Martin. Bonjour Simon.
Bonjour.
Dans le prochain quart d'heure, nous allons passer en revue les hebdomadaires et mensuels chrétiens dans les domaines spirituels, social et culturel dans cet ordre. Je me tourne donc vers Liliane pour les bonnes feuilles spirituelles qu'elle a sélectionnées pour nous. Et on commence avec Panorama.
Panorama, c'est ça. Le père assomptionniste, alors je vais me lancer pour prononcer son nom, Thibaut van Dendrich, j'espère. Oula. Il adresse une lettre à Madeleine Delbrel, bon, qui est décédée bien sûr, hein, mais il lui adresse une lettre où il met en lumière la vie de cette assistante sociale athée qui s'est convertie à l'âge de 20 ans. Et il dit son admiration, il raconte sa vie et il la cite beaucoup. Alors justement, j'ai relevé des phrases de Madeleine Delbrel. « Le Saint-Esprit monte et descend, ne bloque pas l'ascenseur. » Ou encore, mon Dieu, si vous êtes partout, comment se fait-il que je sois si souvent ailleurs? Ou, la vie commune est faite de petits pardons et donc de petits oublis. Alors, il rappelle que la force de Madeleine Delbrel, c'était la prière. Et alors, dedans, il dit, quand prier? Eh bien, elle disait, tout le temps et n'importe où. À l'arrêt d'autobus, par exemple, quand il ne vient pas. Quand je monte l'escalier, quand je fais la cuisine. Et le père termine sa lettre en remerciant Madeleine d'avoir ouvert une voie qui peut illuminer nos vies, celles de nos proches et celles de ceux qui souffrent. Voilà pour Panorama du mois de mai.
Du mois de mai.
Ensuite, il s'agit d'un mensuel catholique qui est offert, qui s'appelle L'Invisible.
Oui.
Alors, un article intitulé « Une vie qui bascule ». Il s'agit d'une conversion. Jacques, alors c'est un nom inventé, hein, bien sûr, donc avait plongé dans la drogue, les boîtes de nuit, la musique. C'était une fuite, vraiment une fuite en avant. Ce monde-ci ne le satisfaisait pas, il ne savait pas quoi en faire. Et le 30 août, il se souvient bien de la date, 2001, il a vécu un moment inoubliable. Il dit qu'il est tombé à genoux, qu'il s'est mis à pleurer et à crier vers Dieu pour lui demander de lui pardonner. Et il dit qu'il s'est senti envahi par l'amour de Dieu et il a senti l'impulsion de changer complètement de vie. C'est ce qu'il a fait. Il est devenu frère dans une communauté.
Ah oui, d'accord. Une vraie conversion.
Hein.
Oui, oui.
Ensuite, c'est dans Famille chrétienne. Ah non, je n'ai pas fini, pardon. Dans le même petit mensuel là, qui est offert, à lire aussi, ah oui, le dossier de la foi en question, un débat intéressant. Sur la Vierge Marie, où une fausse incroyante, qu'on appelle Lily sans gêne, interpelle Guillaume de Mantière, qui est chanoine de la cathédrale Notre-Dame de Paris, et surtout enseignant au Collège des Bernardins. Alors, est-ce qu'il arrivera à convaincre la provocatrice? Vous le saurez en lisant l'article.
Et donc, dans Famille chrétienne.
Voilà. Jérôme Alexandre, qui est spécialiste de Tertullien, professeur de théologie à la faculté Notre-Dame du Collège des Bernardins, nous dit que nous sommes tous disposés à la foi et que la philosophie, quand elle fait bien son travail, n'y fait pas obstacle, bien au contraire. Alors, dans son dernier ouvrage qui s'intitule « La foi n'est pas ce que l'on croit », il dit qu'il ne s'agit pas de croire aveuglément à des vérités cachées, mais de se rendre avant tout attentif au monde, de voir que la vie est une merveille, que les êtres humains sont capables de bonnes et belles choses, et qu'il est raisonnable de croire pour être heureux. Je vous laisse lire la suite.
Et on termine ce tour d'horizon avec le pèlerin.
Alors là, je suis mécontente. Je dis que je regrette que dans cette revue, il n'y ait plus d'articles de fond spirituel. Il faut aller chercher les articles dans le supplément détachable, mais pas toujours, parce que le dernier est entièrement consacré à Flaubert. Alors, on peut aimer Flaubert, mais ça n'a rien de spirituel. Je me rabats donc sur le bref instant du pape François. Notre pape nous dit que ce mois de mai est, comme d'habitude, consacré à la Vierge Marie, et cette année, elle est caractérisée par un marathon de prières à travers d'importants sanctuaires mariaux pour implorer la fin de la pandémie.
Très bien, voilà. Merci beaucoup, Liliane. La société et ses nombreux questionnements sont bien sûr au cœur de vos revues chrétiennes. Tour d'horizon tout de suite, avec Simon.
Alors, un nouveau magazine sur les étagères du petit salon qui vous accueille à l'entrée de la visitation, c'est Ombre et Lumière, une revue entièrement consacrée aux personnes malades ou handicapées. On y retrouve, par exemple, un reportage à l'école Anne Frank du village des Molières dans l'Essonne, où 6 enfants polyhandicapés ont été scolarisés 2 matinées par semaine. Une école rurale tout à fait ordinaire et un accueil en inclusion, comme on dit, qui demeure très rare en France. Un accueil qui s'est préparé bien en amont avec l'établissement pour enfants et adolescents polyhandicapés voisins de l'école. Un travail de sensibilisation a tout d'abord été fait dans toutes les classes, travail qui porte aujourd'hui ses fruits malgré le contexte sanitaire qui ne favorise pas spécialement, vous l'imaginez bien, les échanges. L'inclusion s'est faite par étapes avec une première rencontre à la médiathèque entre enfants ordinaires et extraordinaires, c'est comme ça qu'ils les appellent, c'est joli, hein, les enfants extraordinaires, puis un temps de récréation avant enfin l'intégration dans l'école des enfants handicapés. La prochaine étape, ça sera la cantine. 20 à 25 établissements devraient recevoir des enfants polyhandicapés d'ici fin 2021 et c'est un papier signé Cyril Douillet. On reste dans le médical et l'éthique avec l'enquête de Pèlerin consacrée cette semaine aux soins palliatifs. Un dossier écrit par Delia Ballan, Laurence Valentini avec des photos de Lucas Barioulet. Cette enquête nous conduit dans l'unité des soins palliatifs de l'Institut Godinot à Reims où on peut suivre le quotidien des soignants. Une longue enquête sous le regard de l'Église avec en ligne de mire les lois sur la bioéthique. La parole est donnée au professeur Régis Aubry qui co-préside la plateforme nationale de recherche sur la fin de vie. À quelles conditions le dépasse sur la fin de vie peut-il avancer en France, lui est-il demandé? Alors voilà sa réponse. Communiquer sur la réalité complexe constitue un enjeu majeur pour dépasser le caractère binaire du débat actuel. Ne pas le faire, c'est exercer une emprise sur l'opinion. Mon avis n'est pas tranché, on me l'a reproché, mais je le revendique car je revendique la complexité. Pour moi, essayer d'éclairer les zones d'ombre est un devoir. Belle attitude, je trouve. Je passe à l'hebdomadaire La Vie avec Émeric Christensen dans son édito qui revient sur les vaccins et les brevets. Les États-Unis s'offrent une image philanthropique à bon compte en se piquant désormais de plaider pour la suspension des brevets dans le monde, écrit-il. Comment ne pas saluer l'initiative malgré le sentiment désagréable qu'elle s'apparente à une forme de hold-up moral, spectaculaire, ambigu, contesté et pourtant nécessaire. Ce changement de doctrine sur la propriété intellectuelle des Big Pharma est un tournant. Fin de citation. Évidemment, les choses sont complexes et quid par exemple des infrastructures plus ou moins défaillantes dans les pays du Sud. Cependant, Emmerich Christensen insiste, je cite, « Face à un virus aux allures d'hydre invincible, la vaccination doit d'urgence devenir un bien commun. » C'est du reste ce que plaident le pape et d'autres grandes consciences depuis des mois. Fin de citation. L'hebdomadaire La Vie, où l'on retrouve également une chronique de Jean-Claude Guibaud, journaliste et essayiste, qui est l'invité sur Radio Grand Ciel dans l'émission Point de vue. Eh bien, cette semaine, Jean-Claude Guibaud parle de la présence au monde et du monachisme. Le paradoxe du monachisme, dit-il, vraie présence malgré le retranchement délibéré m'a fait réfléchir. C'est cette modeste interrogation que je voudrais partager. La question tient en peu de mots. Quelle est notre façon d'habiter le monde? Disons que notre présence est plus ou moins discontinue. Fin de citation. Il est vrai qu'il faut parfois des événements extrêmement violents, comme des attentats par exemple, ou des incendies, les grands incendies d'Amazonie, pour que soudain quelque chose en nous se réveille, pour retomber malheureusement par la suite au plus vite. Car, conclut Jean-Claude Guibaud, les couplets sur la transparence dissimulent une déréalisation progressive de notre rapport aux choses et au temps. Notre présence correspond à une énigmatique et cotonneuse absence. Il arrive en effet qu'un moine, dans le silence de son cloître, soit plus présent au monde que nous ne le sommes. Fin de citation.
Très bien, merci Simon. Voilà qui devrait inciter nos auditeurs à découvrir l'émission Point de vue que vous citiez, dans laquelle on peut retrouver Jean-Claude Guibaud en tant qu'invité, à retrouver sur donc le site internet de Radio Grand Ciel. Est-ce que Simon, je peux vous demander de rappeler peut-être le nom de la revue que vous évoquiez en tout premier, il me semble que c'était Ombres et Lumières.
Ombres et Lumières, exactement.
Très bien, merci beaucoup. Eh bien, je vous propose pour finir un petit point culture. C'est de Panorama dont j'ai envie de vous parler pour cette fois, pour saluer sa sélection livre pour le mois de mai. Telles les fleurs de printemps qui enchantent nos talus, on y trouve une belle diversité. Et puis, dans Panorama, il y a toujours la volonté de nous faire réfléchir tout autant que de nous nourrir. Ainsi, ce mois-ci, Sophie Peloux-Préyé nous propose l'essai du portugais José Tolentino Mendoza, intitulé « Le trésor caché » et sous-titré « L'art de la recherche intérieure ». C'est un livre sur l'importance de la prière qui, je cite, « nous invite à retrouver une relation authentique à Dieu et dont l'écriture limpide, légère et surtout vivante, nous porte et nous donne l'énergie de nous mettre en route. » C'est un ouvrage paru aux éditions Mediapol. Autre ouvrage conseillé cette fois par Marilyn Chaumont, « La création retrouvée, l'écologie selon Saint François ». Les éditions Emmanuel publient cet essai signé frère Éric Bidot, qui est un capucin. On y parle écologie, bien sûr, mais à partir du Cantique des créatures, composé par Saint François à la fin de sa vie. Marilyn Chaumont écrit « Les techniques innovantes ou les sagesses de vie ne suffiront pas. On mesure à quel point la conversion écologique tant ressassée est d'abord affaire de conversion profonde du regard qui monte toujours plus vers Dieu. » Un autre essai, cette fois avec la journaliste Mathilde Mailleux, c'est celui du rabbin Delphine Horwiller, qui s'intitule « Vivre avec nos morts », un livre, je cite, « très personnel, qui dévoile 11 portraits d'hommes et de femmes qui furent vivants, une profonde méditation sur notre humanité et nos fragilités, qui rend un hommage doux et paisible à la vie ». Et c'est paru chez Grasset. Dans un tout autre registre, Alban MacEdel conseille aussi la bande dessinée Triso Tornado, histoire d'une famille avec trisomie 21, de Violette Bernard et Camille Royer, paru chez Futuropolis. On y suit la vie de Niels, un enfant trisomique, et de sa famille, d'après l'expérience de la scénariste. C'est du vécu et ça se sent. On n'édulcore rien, on nous dit que parfois, les parents de Niels se sont plongés, je cite, dans des abîmes de tristesse et de découragement qui sont abordés sans fausse pudeur, mais qu'ils vont découvrir, les parents, qu'il est possible, avec détermination et patience, de dompter la douleur et de vivre de grandes amours. C'est une bande dessinée qui est une ode à la différence, qui rappelle que la trisomie 21 est aussi quelque chose qui se vit en famille. Et puis enfin, Panorama à travers Marilyn Chaumont met en lumière le dernier recueil du poète Philippe Jacotet qui nous a quittés en février dernier. La clarté de Notre-Dame est sortie chez Gallimard, bien sûr. Et Marilyn Chaumont sait trouver les mots pour nous inviter à lire ce recueil qui fait figure de testament poétique. Elle écrit « Auteur d'une œuvre poétique majeure et de la plus belle traduction française de l'Odyssée d'Homère qui puisse exister, l'écrivain suisse a été un veilleur, persistant à tenir dans sa main une lampe tremblante au cœur d'un siècle peuplé d'ombre. » Bel hommage à Philippe Jacotet qu'elle conclut par ces mots « Lui qui cherchait à resplendir dans l'effacement de lui-même, cueille à l'issue de ces pages notre éblouissement face au tintement pur de son chant. » Tout est dit, donc son livre s'appelle « La clarté de Notre-Dame ». Merci donc à Panorama pour cette sélection livre du mois de mai, à retrouver bien sûr dans son intégralité dans le magazine. Et je vous y invite avec plaisir. Bien chers amis, c'est l'heure de nous quitter pour aujourd'hui. Merci à vous de votre attention. Rendez-vous très bientôt pour une nouvelle revue de presse chrétienne. Merci Liliane et merci Simon. À bientôt.
À bientôt.